Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Bernard Cadenne.
Bonjour.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors l'Aveyron nous a donné deux grands peintres, Soulages et Cadenne. Et je reçois l'un d'eux, un bambin, hein, comparé à son illustre aîné, mais un peintre passionné, créatif, libre, amoureux de la couleur qu'il nous fait chanter dans tous ses tableaux. Bonjour Bernard Cadenne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur le plateau d'Esprit Occitanie. Alors Bernard Cadenne, première question, si on n'a pas un Cadenne à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie ?
Vous avez tout à l'heure cité de l'Aveyron Soulages et Cadenne par rapport à une Rolex. Le prix n'est pas le même d'un Cadenne d'un Soulages.
Non, c'est pas tout à fait
c'est
pareil.
C'est pas tout à fait le même prix.
Alors comment c'est arrivé cette grande aventure de la peinture ? Comment un petit garçon aveyronnais se ressent-il cette attirance finalement, ce besoin de peindre?
Ma mère avait été nommée professeure, elle était au collège d'Albi. Et au collège d'Albi, je n'étais pas un élève, moi, tellement brillant dans les études traditionnelles. Et un jour, je me baladais dans Albi, je devais avoir 12 ans, 11-12 ans. Et j'étais dans les jardins du musée Lautrec, derrière la cathédrale. Et je rencontre un ami de mes parents qui s'appelait De Voisin, qui était un médecin et qui était le directeur du musée Lautrec à l'époque. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je me promène. Et il m'a dit, mais viens te promener dans le musée. Il est là, le musée, pour toi, va te promener, tu fais ce que tu veux. J'ai eu objectivement un coup de foudre dans la peinture de Lautrec, dans les dessins. J'ai découvert beaucoup de choses. Voilà, ça, l'idée est venue de là, la peinture et tout. Et puis après, il y a eu tout un chemin de vie, j'ai dessiné beaucoup. Et
vous aviez dans votre famille des dessinateurs, des peintres?
Non, non, des musiciens. Mon père était accordéoniste. D'ailleurs, j'ai hésité entre le conservatoire et les beaux-arts parce que j'ai fait 7 ans de violon. Et puis après, avec les années, j'ai fait de la musique de bal.
Oui, voilà, j'allais vous dire, en préparant cette émission, vous avez dit que j'ai été musicienne de bal. Alors déjà, de bal, plus personne ne parle de bal aujourd'hui.
Eh oui, mais elle n'est pas la même époque. Et je vais avoir bientôt 80 ans, cher monsieur.
Il n'y paraît
donc,
pas.
Vous voyez,
il
revenez,
pas.
Mettons ça autour des années 68, 69, 70, voilà. Un orchestre qui s'appelait Jacques Villa, voilà.
Et alors, vous faisiez tous les soirs, les...
Les baloches, les balles d'étudiants, en boîte.
Et puis, vous jouiez de quoi, du violon ou de l'accordéon?
J'étais passé à la basse et guitare basse.
D'accord.
Voilà. Je fais beaucoup de choses. J'ai accompagné des rockers, j'ai accompagné des attractions, comme j'étais bon lecteur musicalement, j'ai accompagné des chanteurs à la mode à l'époque, voilà.
Et vous n'avez jamais chanté vous-même ?
Ah non, j'ai jamais chanté, non, ça ne m'intéresse pas.
Et ça vous a pas donné envie de continuer la musique, par contre ?
Mais c'est-à-dire que moi, vous voyez, on parle et c'est sympa avec vous, on parle dans tous les sens, et moi je parle dans tous les sens, donc ça me va très bien. Quand je me suis marié, ma femme m'a dit « arrête un peu » parce que toutes les nuits, j'ai été musicienne aussi dans des maisons closes.
C'est agréable ça.
C'était bien à Toulouse.
Vous avez dû vous faire des relations, voir du monde là, non ?
J'ai vu du monde. Et vous avez connu à l'époque, ça s'appelait, il y avait le My Flower.
Ah oui.
Bon. Et deux
pas
jours
fréquenté,
par
mais connu.
Deux jours par semaine, j'étais habillé en mexicain. J'avais un copain qui jouait de la guitare et qui chantait, et moi je l'accompagnais, on était en duo, et puis on avait des pourboires, on avait tout un tas de trucs.
Vous étiez rémunéré en nature ou...
Ah non, un garçon sérieux, moi. Non, ne plaisantons pas, monsieur Lavergne. Non.
Alors vous êtes dirigé Vous avez fait le choix de la peinture, du dessin aussi, parce que vous avez beaucoup dessiné.
Et ah
vous
oui.
Êtes, et vous êtes rentré aux Beaux-Arts. La famille
je suis rentré aux Beaux-Arts.
Était d'accord, parce que les Beaux-Arts, quand même,
voilà. Et
toujours
là,
été une réputation un peu sulfureuse, oui. Quand même. Hein.
Et j'avais ma marraine qui était médecin et spécialiste, elle était à Paris, un peu des gosses un peu à problème, des branleurs, quoi. Voilà.
Ah ben on peut avoir des problèmes mais être branleur, c'est pas la même chose.
Voilà, mais bon, j'avais pas de problème dans la tête, mais enfin bon, l'enseignement ne m'intéressait pas beaucoup. Et elle m'a pris une dizaine de jours chez elle, et les conclusions, elle a dit à ma mère et à mon père, laissez-lui faire ce qu'il voudra, sinon vous en ferez rien.
C'est un bon
et
conseil.
Et je suis rentré aux Beaux-Arts en préparatoire,
ouais. Voilà.
Ça s'est très bien passé. Et puis finalement, j'ai eu mes diplômes après de professeur de dessin et je suis professeur de Beaux-Arts.
Et alors, quand on rentre aux Beaux-Arts, vous aviez quel âge à l'époque ?
Alors, je suis rentré aux Beaux-Arts, j'avais 18 ans.
À quoi on rêve quand on rentre aux Beaux-Arts en 18 ans ? On se voit enseignant ou alors on se voit peintre, dessinateur ?
Mes parents m'ont quand même dit, fais les Beaux-Arts, mais fais l'enseignement. Ma mère était prof.
Et oui, il voulait voilà. Assurer le pain quotidien.
Absolument. Et puis, donc, j'ai fait ce qui ne gênait pas, toutes les études. J'ai tous mes diplômes, tout. Puis j'ai continué un diplôme supérieur qui me donnait droit à être professeur de Beaux-Arts. J'ai eu un poste à Carmaux et j'ai tenu un jour et demi. Je suis reparti, sans laisser l'adresse. On m'a retrouvé, le rectorat, j'ai été... barré du rectorat, j'ai démissionné, je suis parti, j'ai eu peur. Je me suis dit, si tu restes là, tu vas être prof, tu vas être comme ta mère, tu vois, l'enseignement. Et puis à l'époque, professeur de dessin, professeur de musique et professeur de gymnastique, même les collègues ne te prenaient pas au sérieux. Parce que c'est vachement bien, tu n'as rien à corriger. T'as rien à faire. Un prof de maths, un prof de français, il a du boulot. Un prof de dessin, ils n'ont rien à foutre quand t'as fini le cours. Les mecs, ils dessinent et tout. Un prof de gym, il rentre à la maison et il gagne pareil. Et tout. Il y avait tout un climat. Et puis, moi, j'avais un peu l'esprit... moi, j'ai fait 68 aussi, quand même.
C'était l'époque, d'ailleurs, de 68, au moment où vous avez commencé à enseigner.
Et oui, moi, à 68, c'était ma fin de ma période de Beaux-Arts, quoi.
Alors, vous étiez de quel côté des barricades ?
J'étais dans la fête. Au Beaux-Arts, c'était la fête. On passait nos nuits au Père Léon.
Et oui.
Il y avait Esquirol, tout ce coin. Et moi, je peux dire que j'ai été manifestant sans savoir trop pourquoi. Au Beaux-Arts, c'était la fête. Et c'était la fête un peu partout, quoi. C'était formidable.
Moi, il y a quand même des grands noms qui sont sortis des Beaux-Arts de Toulouse.
Des grands noms, oui. Il y avait des professeurs qui étaient extraordinaires. Bergougnan, Chinton, Pagès, sculpteur prix de Rome, les Toudis. Il y avait... Ils sont plus là. C'est des gars qui ont des... C'est des profs que j'ai eus qui ont disparu. Mais c'était les Beaux-Arts, c'était quelque chose, quoi. C'était...
Quand vous étiez prof, alors une expérience d'un jour et demi, mais quand même, comment vous avez perçu les élèves à l'époque ? Ils sont foutus de ce que vous leur disiez ? Ils étaient intéressés ?
Si j'étais rentré après comme prof aux Beaux-Arts, c'est autre chose. Quand on va aux Beaux-Arts, c'est qu'on a envie de faire quelque chose.
Oui, tandis que
et
là,
à l'époque, on rentrait en préparatoire. Il faut dire qu'il y avait deux classes de préparatoire, où on était en tout 60 ou 70. Ils en gardaient une vingtaine. Et moi, quand j'ai terminé, on était 5.
Ah oui, ça a écrémé.
Voilà. Donc, un est devenu directeur de l'école, il s'appelait Ponce. Après, les autres sont devenus profs. Et moi, le vilain petit canard, j'ai fait de la pub pour raisons alimentaires. Hein. Et puis ça me plaisait. Parce que j'ai été rayé, donc, de ma courte expérience.
La transmission, ça vous a jamais... Enfin, pour transmettre, il faut être un émetteur, un récepteur. Les récepteurs, ils n'étaient pas trop au niveau.
Ma mère était prof, mais...
Qu'est-ce qu'elle enseignait ?
L'enseignement ménager. À l'époque, c'était bien. Après la guerre, tout ça, et même en 60... Et les années avant, en 50, etc., On apprenait aux jeunes filles à faire la cuisine, à coudre, à repasser, etc.
Bon, on en a dans le studio, là, mais je ne crois pas qu'elles ont suivi
voilà.
cet enseignement-là.
Ça n'existe plus, l'enseignement ménager, dans un collège, ni rien. À l'époque, c'était ça. Et elle était prof de, voilà, d'enseignement ménager. Et mon père était accordéoniste. Il est parti tenter sa chance à Paris, en Bonaveronais. Et puis il s'est retrouvé au carreau du temple, associé avec des juifs dans la maroquinerie.
Oui, bon. C'est souvent ce qui arrive aux Aveyronnais, ils ont comme, voilà. quand même de fabuleux commerçants.
Et mon père était associé avec un gars qui s'appelait Vinogradov, il avait un représentant qui s'appelait Kantov, et un autre qui s'appelait Rosengarten. C'était extraordinaire. Et au milieu, il y avait un Aveyronnais, Kaden.
Oui, mais les Aveyronnais sont un peu les juifs de la France, non?
Oh, je ne sais pas, peut-être... non, ça me plaît pas trop ce que vous dites, monsieur Lavergne.
Ils ont des qualités, hein? Des qualités commerciales éminentes.
Et humaines, et on est très.
Non, mais les autres
très,
aussi.
Très réunis. On était, les Aveyronnais, c'est presque une secte d'être Aveyronnais. Voilà.
Je vous ai toujours entendu dire ça, parce qu'on se connaît déjà depuis un certain temps. Et alors, vous êtes dirigé pour manger vers l'audiovisuel, la peinture.
Non.
Ça...
D'abord, la publicité.
La publicité.
J'ai créé une société de publicité qui s'appelait PBC, Publicité Bernard Kaden, qui est venue au bout de 3 ans la première dans la région et qui s'est bien développée. Je l'ai gardée 7 ou 8 ans. Je l'ai revendue en très bon état. Ça s'est très bien passé à la Dépêche du Midi. Avec cet argent, avec ma femme, on a acheté un hôtel, l'hôtel de Diane.
Voilà, bien connu des Toulousains.
Voilà, que ma femme a géré pendant de nombreuses années. Elle a agrandi, elle a acheté des terrains où nous avons acheté, mais moi, je ne m'en occupais pas. Je continuais à mener cette agence de publicité pendant quelques années, puis j'en ai eu marre. J'ai créé une agence de publicité spécialisée dans l'agricole et l'agroalimentaire.
Pourquoi ?
Parce que j'avais un contrat d'exclusivité en quittant PBC. Et j'ai monté cette agence. Madame Bailey, Evelyne, à l'époque, m'appelle et me dit « Qu'est-ce que vous allez faire, Kaden ?» Je dis « Là, j'ai le droit, je monte une agence spécialisée. » Et elle m'a dit, texto, « Mais vous me prenez avec vous ?» Et elle s'est associée avec moi. J'ai eu les maïs américains pionniers, les côtes de Saint-Baul, le vin de Madiran, des quantités de vin, et j'ai monté ce...
Ça, c'était de la publicité, mais la publicité, ce sont des créatifs. Est-ce que l'école des Beaux-Arts préparait à ce genre
oui,
de choses?
Oui, mais moi, je l'ai appris après tout seul, la pub. Je n'ai pas fait de marketing, je n'ai pas fait d'école de commerce, rien du tout.
Vous étiez Aveyronnais, ça n'était pas utile.
C'est pas utile, oui, ça va, merci. Donc, ça a très, très, très bien marché. J'ai revendu cette affaire 8 ans après à Rousségala Caïzac, qui n'a rien compris. Il a acheté l'affaire parce qu'il y avait des marchés, il y avait plein de trucs. Et j'avais dit à ces gars-là, dans ce métier, pour aller voir les coopératives et tout, il faut mettre des bottes. Il faut toujours avoir des bottes dans la malle. Il n'a pas très bien compris ça. Mais après, c'était son affaire. Donc après, je suis parti dans l'audiovisuel.
Des bottes et le laguiole.
Hein?
Et le laguiole.
Et oh, le laguiole, toujours dans la poche. Toujours.
Je vous ai toujours connu avec le laguiole.
Toujours un laguiole dans la poche. Voilà. Mais qui a même été béni à Lourdes et à Rome.
Ah, vous faites bénir, vous?
Ah, je ne suis pas cubéni.
Et alors après, vous partez dans l'audiovisuel.
Voilà. Et
nouvelle aventure.
Dans les films publicitaires.
Ah, vous avez, c'est quand même, on était dans le même
J'ai
milieu.
J'ai fait plus
là.
De 300 films publicitaires. Dont certains ont marqué, et avec des slogans qui ont duré, Tropico c'est trop, La paire, il n'y en a pas deux.
Oui, je m'en souviens de ça.
Vas-y, vaza.
Oui, ah, c'est vous qui avez fait
ah,
ça.
Oui, mais j'en ai fait des quantités, et puis mon fils a pris la suite. Voilà, et c'est devenu Master Film, qui est une grosse boîte de prod.
Oh, c'était déjà, quand vous lui avez cédé,
ah,
une
oui,
grosse
oui,
maison,
oui, 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 oui.
bien établie.
Mais j'en avais marre, hein. Je voulais faire que de la peinture, et puis je suis un instable créatif. Voilà.
Un instable créatif, oui, c'est une définition qui me va bien, moi aussi. Et la peinture, vous l'avez commencé quand?
Ah, mais j'ai fait les deux métiers à l'époque.
Oui, voilà, vous étiez à la fois peintre.
Oui, j'ai jamais arrêté la peinture et le dessin. Mais quand j'ai arrêté l'audiovisuel, j'ai fait que de la peinture. Et là, évidemment, là j'en suis à ma 138e expo personnelle, plus des collectives, en France et dans le monde.
Combien vous avez fait de tableaux, vous le savez?
Répertorié, puisque maintenant, comme j'ai une cote au marché de l'art, question numérotée, j'en ai 1800 qui se promènent. Ça fait pas mal.
Ça fait pas mal,
voilà,
effectivement.
Qui se promènent dans le monde et dans des collections privées et importantes. Voilà.
Alors, cette peinture, vous l'avez toujours menée de front avec les affaires, on va dire. Hein, vous
non, mais les affaires, dans toutes les affaires, il était question de création.
Oui, mais la peinture,
je n'ai fait que
spécial.
De la création et la pub, c'était ça qui m'intéressait. Je n'ai jamais été un grand gestionnaire. Je prenais toujours quelqu'un pour faire la gestion et qui me recadrait. L'hôtel, quand on l'a eu, c'était ma femme. Elle avait 30 employés, moi je lui faisais la pub. Mais moi, c'était pas mon truc, quoi. C'était une affaire familiale, et puis voilà, quoi.
Vous parlez de peinture, mais on a aussi, au début de l'entretien, parlé de dessin, puisque vous êtes prof de dessin.
Oui.
Dessin et peinture,
ça marche ensemble.
Ça marche ensemble, mais vous ne faites pas de dessin aujourd'hui.
Si.
Si, vous continuez.
Si, toujours. Et dans toutes mes expos, où je vais de plus en plus vers, je ne vais pas dire de l'abstrait, mélange abstrait et réalité, je mets quand même quelques dessins, parce que ça me fait plaisir par rapport à d'autres peintres, de dire, même des peintres abstraits, regarde-moi ce que je sais faire. Je me fais plaisir. Et je mets toujours quelques dessins.
Dessiner quoi?
Tout. Des personnages, beaucoup de nus, parce que c'est très difficile. Des animaux, des chevaux. J'ai fait de très belles collections de chevaux. Il n'y a rien de plus difficile et de plus beau que dessiner des chevaux.
Et moi, je les monte, mais je ne sais pas les dessiner.
Oui, mais bon, c'est pas facile. Mais moi, je suis à l'aise pour ça. Et voilà. Et puis, beaucoup de nus, de scènes de la vie, de tout. Je touche à tout. Des marines, etc. Ce que je fais après en peinture.
Alors, être peintre, oui, vous l'êtes au combien. Comment vous définiriez votre peinture? On est dans l'abstrait, on est dans le figuratif, on est dans un mélange des deux. Parce que quand
mais
on
vous
regarde,
avez répondu, c'est un mélange des
voilà,
deux.
Voilà, c'est un peu ce que j'ai senti. J'ai sous les yeux, et bien sûr, on le répétera tout à l'heure, que du 14 octobre au 7 novembre, vous exposez à la galerie Alain Daudet.
12e exposition chez Alain Daudet.
Voilà, vous êtes donc un fidèle.
Oui.
Et je regardais le document de, comment on l'appelle, ce document de publicité pour
le carton d'invitation.
Le carton d'invitation qui est fort bien garni. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait les deux dans votre peinture,
oui,
dans vos
les
tableaux.
Deux.
Je vois par exemple les régates, la régate en folie à Saint-Tropez. Bon, c'est vrai qu'on voit les bateaux, on voit la mer, enfin on peut voir beaucoup de choses. Mais c'est un traitement particulier.
C'est ma personnalité. C'est ce qui fait peut-être un peu aussi l'originalité de mon travail et que ça marche bien.
Alors, avant de rentrer dans ce qui est aujourd'hui votre vie ou qui l'a toujours été, cette peinture, on va faire une pause musicale, une première pause musicale que vous avez choisie. Et je vous laisse l'annoncer puisque c'est vous qui l'avez choisie.
Vous m'avez donné la possibilité de choisir. Moi, j'ai une... je dois avoir 1000 ou 2000 ou 3000 CD, disques, 33 tours. Mais j'ai pensé que j'allais proposer Miles Davis.
D'ailleurs, vous avez aimablement amené la boîte de CD. Bon, elle était vide.
Oui,
mais,
elle était vide.
L'intention était là quand même.
Et le disque n'était pas à l'intérieur. Mais comme vous êtes très bien organisé en votre radio, vous l'avez retrouvé. Parce que... J'ai deux modèles. Je ne sais pas si je peux en parler, là.
Non, parce que vous pourriez en parler, mais on va y venir tout à l'heure sur ces deux modèles.
On va écouter Miles Davis.
Voilà.
Et j'ai proposé Ascenseur pour l'échafaud.
Allez, c'est parti.
Thank you.
Voilà, Mike Davis, le choix de Bernard Cadenne, notre invité, le peintre Bernard Cadenne. Alors, pourquoi Mike Davis, Bernard ?
C'est un grand créateur, un grand créatif, et je le compare en musique à Picasso. Voilà, en peinture, pardon, à Picasso. C'est des gens qui, dans leur vie, ont tout le temps changé et évolué. Quand on pense à Mike Davis, ce que vous venez d'écouter, Ascenseur pour l'échafaud, et à sa mort, avant l'heure, il faisait du rap. Moi, je le suivais, j'allais pratiquement chaque année à Nice, au festival de jazz de Nice, où Mike Davis y a été souvent. Il y avait une évolution extraordinaire. Quelque temps avant sa mort, il faisait du rap. Extraordinaire. Et Picasso n'a jamais fait pareil dans sa vie. Les Porcs Bleus et comme il a fini. Et beaucoup d'artistes restent dans une classe et ne bougent pas, aussi bien dans la musique que dans la peinture.
Alors justement, revenons à la peinture, à la vôtre, mais à la peinture en général. Est-ce que la peinture, ça s'apprend ? Je vous donne une phrase là, vous me direz de qui elle est. Ce qu'on apprend par exemple à l'école des Beaux-Arts, c'est uniquement le métier manuel et non la peinture, de la même manière qu'on apprend à fabriquer les sabots. Ça veut dire qui c'est ?
En parlant de sabots, il y a peut-être Soulages, non ?
Je vous montre le livre d'où je l'ai tiré. C'est de Picasso. C'est un livre que je vous recommanderai tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui,
Picasso disait, la peinture, comment devient-on peintre ? Quand on lui posait cette question, il disait qu'il faut à la fois apprendre, mais que cela ne s'apprend pas.
Mais si on n'a pas un don au départ, si on n'a pas, c'est comme dans la musique, si on n'a pas le talent au départ, ça ne s'apprend pas, ce n'est pas la peine, on ne fait rien, on n'avance pas. Donc il faut avoir l'esprit, le talent, une certaine culture, et après on le travaille. Mais de dire on apprend à peindre, on apprend à dessiner, c'est évident pour moi.
Vous pensez que si on n'apprend pas finalement ces bases, rien ne peut se faire derrière ?
Pour moi, oui. Je suis peut-être un vieux con, à presque 80 ans.
Je ne fais rien à l'affaire. Brassens l'a chanté.
Oui, oui, Brassens, c'est un dieu. Moi, je pense qu'il faut des bases dans tout. Il en faut dans l'écriture. Je pense que vous me faites écrire un bouquin, c'est pas mon truc. Vous écrivez des livres. Il faut faire sonner les mots. Il faut dans les phrases faire durer, amener petit à petit une histoire. La peinture, c'est pareil. Un tableau, il se monte, il avance.
Alors voilà. Justement, un cadenne, je parlais tableau, un cadenne, ça commence comment ? Comment ça ?
Un croquis. Alors, j'ai des milliers de croquis. J'ai gardé des croquis des Beaux-Arts. J'ai des caisses de croquis et je peins toujours dans mon atelier. Je prends des croquis et j'assemble. Il peut y avoir des personnages qui ont un fond de nature, ou il peut y avoir des personnages sur un marché. Mais tout ça, c'est la composition. Tout ça, c'est dans ma tête en partant de croquis que j'ai. Pareil pour les nus. Maintenant, je ne prends plus de modèles. J'en ai tellement de dessins, je les retravaille. J'évolue en fonction de ça. Et je peins dans ma tête, dans mon lit la nuit. Si je ne dors pas, j'invente des tableaux que je travaille dans la journée. Je peins dans ma tête.
Cette nuit, j'ai écrit dans ma tête aussi parce que je ne dormais pas. Et au bout d'un moment, il a fallu que je me lève pour noter tout ça parce que les fulgurances la nuit sont souvent excellentes. Mais si vous ne les notez pas le matin, on ne se souvient plus de rien.
Ouais.
Et alors, l'idée, quand vous démarrez un tableau, vous dites, tiens, je vais faire un tableau, mais qu'est-ce que vous allez mettre sur ce tableau ?
Mais ce que j'ai dessiné en petit, sur une feuille de papier, dans l'atelier, j'ai plusieurs tables, et j'en ai une qui sert à faire les croquis, où je redessine, je recompose en gros le tableau. Quand il est recomposé, je dis, tu vas faire un format de telle dimension. En général, je travaille sur des formats assez grands. Et à ce moment-là, je reprends mon dessin sur le tableau d'une façon très légère au pinceau. Et partant de là après, Je gadouille, je mets de la peinture. Quand ça ne va pas, eh bien, on recommence. On laisse sécher, on prend une autre toile. Et quand il y en a une sèche, on retravaille dessus, etc. Voilà, et puis des fois, ça passe très rapidement. Et en 3 heures, un tableau est terminé.
Qu'est-ce qui vous dit que le tableau est achevé, que ça suffit?
Alors, je mets tous mes tableaux dans l'atelier. Quand un tableau est fini, il va sur un chevalet à 3 ou 4 mètres. Il reste là quelques jours. Et des fois, je rajoute un petit détail, un petit trait, il y a quelque chose. Et au bout d'une semaine, je dis, bon, ça va, il est bon celui-là. Je le monte à l'étage, au séchoir. J'ai un séchoir à tableau. Et là, il est fini. Et quand il est sec, on le vernit. Et sinon, je laisse sécher, mais je repeins dessus. Je ne veux pas qu'un tableau qui ne me plaise pas sorte de l'atelier.
Est-ce qu'il y a des tableaux, où on parlait tout à l'heure, j'ai noté le chiffre de 1800 tableaux en circulation. Est-ce que quand vous en revoyez, parce que peut-être que vous en recroisez,
ah oui.
Quand vous en revoyez, est-ce que vous dites finalement là, non.
Mais c'est-à-dire que...
Je n'ai pas été très bon, si c'était maintenant, je ferais différemment.
Mais ce que je fais maintenant est différent de ce que je faisais il y a 2 ans,
ça vous est arrivé
il y a 4 ans ou il y a 6 ans.
Ça vous est arrivé de racheter des tableaux que vous avez vendus pour
non,
les...
Non. C'est non, les gens mènent leur propre vie avec les tableaux. Non, ou ça part dans des salles de vente, ou j'en sais rien, ils font ce qu'ils veulent. Non, je ne rachète pas les tableaux. Les gens qui les ont achetés les aiment s'ils les ont achetés. Mais moi je fais autre chose. Je pars dans une autre façon de peindre. J'évolue en permanence. Ce que vous avez sous les yeux, ce qui va être présenté à l'Expo d'Odé, n'a rien à voir avec celle que j'avais, à part la couleur. Je reste dans la couleur. Mais ça n'a rien à voir avec les spots d'il y a 2 ans.
Oui, parce que vos tableaux sont toujours extrêmement colorés.
Ben oui, j'aime la couleur. Pour moi, la couleur, c'est la vie, j'en ai besoin. Je suis à l'aise.
Vous faites un tableau, vous racontez une histoire
Oui, il y a toujours une histoire.
Il
oui,
y a du symbolisme, une touche de philosophie, du spirituel.
Oui, oui. Dans ce que vous avez sous les yeux, il y a par exemple des scènes de la mer, de bateaux, parce que j'étais en vacances dans ce coin-là, du côté de Ramatuelle, donc j'avais quelques croquis, puis après, c'est revenu dans la tête. J'ai pas mal de tableaux. Dans mon pays d'origine, des croquis de l'Aveyron. Maintenant, j'ai fait toute une série de la montagne, des chemins de montagne. Il y en a un ou deux sur le carton d'invitation, parce que mon fils a une maison au-dessus de Luchon.
Oui, voilà. J'ai vu que vous avez peint l'église de Saint-Aventin à Luchon.
Exactement, voilà. Et puis en bas, il y a les chemins qui amènent, mais c'est revu et corrigé, c'est dans mon imaginaire.
Comment ça, la Garonne, Saint-Cernin, par exemple, très beau tableau. Comment c'est venu? Comment vous avez imaginé cette construction si particulière?
Donc, j'avais fait des croquis de Saint-Cernin. Et puis, ça revient à ce que vous m'aviez demandé tout à l'heure. Montrer que je sais dessiner. Parce que Saint-Cernin, quand vous verrez le tableau qui est en très grand format, et chez Daudet, il y en a 3 de différents de Saint-Cernin. Il faut dessiner quand même, il faut savoir dessiner. Et tout le reste... est inventé. La Garonne qui est devant Saint-Cernin, ça c'est purement imaginaire, mais c'est la Garonne, elle passe à Toulouse. Saint-Cernin, c'est Toulouse. Il y a des plans qui sont complètement irréels, qui sont dans ma tête. Et c'est là où je joue avec les couleurs, avec. Voilà. Tableau que vous avez, Saint-Cernin, il est tout bleu.
Oui.
Voilà.
Mais on le reconnaît parfaitement bien.
Voilà.
C'est Léonard de Vinci qui disait, je crois, la pittura è cosa mentale. Vous...
La peinture est fondamentale.
Non, è cosa mentale, c'est une chose de l'esprit.
Ah oui.
C'est totalement quelque chose qui vient de l'esprit.
Absolument. Absolument.
Donc il faut quand même avoir des bases techniques pour appliquer cette couleur de scène. C'est un peu comme un artiste ou un acteur, plus exactement. Il apprend un texte, il l'oublie, il le joue après.
Mais évidemment. C'est pour ça que ce qu'on m'avait dit tout à l'heure, Picasso dessinait à merveille.
Oui,
regardez les porcs bleus.
Oui, très grand dessinateur, Picasso.
Voilà. Et par contre, Soulage, quand il a fait ce qui est un type de qualité, j'ai par exemple dans le bureau de Carole Delga à Montpellier, il y a 2 tableaux, un Cadène et un Soulage face à face. un tableau qui fait 4 mètres, le mien, et le sien est grand. C'est, à part le côté aveyronnais, il n'y a pas autre chose. Hein. Mais tout ça pour en revenir à l'Expo Soulages, du début de l'ouverture du musée Soulages à Rodez, ils avaient mis 4 tableaux de Soulages enfants, jeunes, des huiles, quand il avait failli rentrer aux Beaux-Arts ou il avait fait la sortie aux Beaux-Arts. Ça ne vaut pas un pélo, hein. C'était pas son truc. Hein. Je comprends qu'il soit parti sur autre chose.
Et vous la comprenez, sa peinture?
Moi, je l'aime. Mais je l'aime, mais il ne faut pas en avoir beaucoup à côté. Moi, j'ai vu Soulages, je suis allé à Paris, à Pompidou, Soulages au musée Fabre, il y a une belle salle à Montpellier. Et quand ils ont fait l'ouverture du musée Soulages à Rodez, il y en avait trop pour moi. Voilà. Il y avait trop de Soulages, il y en avait trop, j'étais perdu. Mais quand on a 1, 2, 3 Soulages dans un lieu, c'est super, c'est chouette, ça me plaît beaucoup. Maintenant, je me pose des questions sur Soulages. Je trouve que c'est un peu répétitif. Je ne sais pas. Je ne sais pas le plaisir qu'il a, je ne sais rien. Je ne peux pas...
Qu'est-ce que vous ressentez en voyant un tableau de Soulages?
La matière qu'il y a là-dedans.
Il y a de la matière, la couleur.
Il faut jouer avec la lumière.
Voilà.
Et se promener autour d'un tableau. Parce que quand il a un grand format qui est éclairé comme il l'a voulu ou comme le propriétaire l'a voulu, si vous circulez autour, c'est différent. Parce qu'il y a beaucoup de matière et cette matière joue avec la lumière.
Vous peignez sur quoi? Vous peignez sur toile, sur bois, sur...
Surtout.
Surtout.
Papier,
oui.
Canson, essentiellement sur toile, mais je travaille aussi sur du bois. Par exemple, à Toulouse, il est sur toile, la clinique Rive Gauche.
Oui.
Dans l'entrée de la clinique La Nouvelle, j'ai un tableau qui doit faire 5 mètres sous verre, qui est un triptyque, qui est un mélange de techniques, mais basé sur toile. Celui de Montpellier, dont je vous parlais, un très grand format dans le bureau de Carl Delga, je crois qu'il est tout bois.
Le format, c'est important. Comment vous le choisissez en rapport avec ce que vous allez
faire? Ce que je vais faire. Voilà. Donc, de plus en plus, je vais sur des grands formats.
Pourquoi?
Parce que j'aime. Je suis à l'aise. Il y a des grands mouvements. Là, ce que je ne faisais pas avant, maintenant, je m'exprime davantage avec des grands mouvements. Voilà.
C'est une gymnastique, la peinture, ouais. Une danse.
C'est pour ça qu'en ce moment, je fais de la rééducation. Je vais chez le kiné 3 fois par semaine. Je me suis foutu l'épaule en l'air en peignant.
Alors, vous peignez avec quoi? Couteau, pinceau, autre chose?
Essentiellement des brosses et des pinceaux. Pendant longtemps, j'ai peint à l'huile. Maintenant, j'ai une technique mixte parce que je la vois complètement cassée par la peinture à l'huile, l'essence de térébenthine, le white spirit et tous ces trucs-là. Donc, je me suis mis à l'acrylique et je ne l'aimais pas avant l'acrylique. Et l'acrylique est devenue, au fil du temps, une peinture supérieure à la peinture à l'huile. Il y a des marques d'acrylique extraordinaires où on a la même qualité que la peinture à l'huile. Et avec un avantage énorme, dans le temps, il y a eu des essais de fait. Elle craquait le pas, elle tient. La peinture à l'huile, vous n'avez qu'à voir tous les grands tableaux des maîtres. Ils s'abîment avec le temps, avec la peinture à l'huile, elle craquait. Et l'acrylique ne bouge pas. Et voilà, c'est aussi une raison. Et puis, c'est, je crois, moins nocif. Du moins, on ne le sent pas.
Réaliser un tableau, ça prend combien de temps? Vous allez me dire, c'est une question idiote, ça dépend de sa taille,
totalement,
ça dépend de l'inspiration.
Votre question.
Oui, je le savais, c'est pour ça que j'ai préféré me critiquer moi-même avant que vous le disiez.
Plus vite il est fait, meilleur il est.
Oui.
Pour moi. Voilà.
Parce que la spontanéité fait le tableau.
Quand on y revient dessus, c'est que ça ne va pas, on rajoute... ou alors des fois c'est un petit détail, mais ça c'est autre chose. Mais quand on est trop besogneux sur un tableau, il manque de spontanéité. Il faut, moi, un tableau, 3 heures, 4 heures. Il y a des tableaux qui me durent 5, 6 heures que je continue le lendemain. Mais j'estime que plus vite il est fait, mieux il est. Dans la journée, il faut qu'il sorte. Voilà, c'est ma vision en fonction de mon travail.
C'est pas frustrant de faire un tableau aussi vite, parce que finalement, c'est passé très vite, 4, 5, 6 heures sur une œuvre.
C'est...
Et après, on repart sur une autre.
Oui, le lendemain, ou... Oui.
Vous peignez tout... quand vous disiez que la nuit, vous aviez des idées, mais...
Le matin. Alors, le matin, j'ai un parcours particulier. J'habite à Cugnot, et j'ai mon atelier à Cugnot. Le matin, je vais au bistrot retrouver les copains, refaire le monde. À 9h, 9h15, je suis à l'atelier, jusqu'à midi. Après, bon, je vais casser la croûte, et l'après-midi, je repeins un peu et je vais faire du sport. Donc, je peins par jour 4-5 heures. Voilà. Et ça peut être aussi le samedi et le dimanche. Bon, il y a des périodes de vacances où on s'en va, évidemment. Mais quand on part en vacances, je fais des croquis. Ça rentre dans ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Les croquis, c'est les travaux préparatoires, finalement.
Ouais, j'ai les carnets, j'ai des trucs et qui me reviennent après quand je... Voilà, ça peut être des personnages, ça peut être un paysage, ça peut être un truc, une mémoire qui me sert à peindre.
Et ensuite, les clients, comment ils viennent à vous? Vous avez des marchands, des galeries?
J'ai
comment ça se passe?
Deux nanas qui sont associés, qui sont à Paris, la société, leur société s'appelle Biou, qui s'occupe de tout, aussi bien Internet, aussi bien les galeries, toutes les expos, l'expo chez Daudet qui va démarrer. Elles ont travaillé avec Daudet pour mettre au point, elles s'occupent des relations presse, elles s'occupent de tout, voilà.
Ça vous est arrivé qu'on vous passe une commande en disant je veux que vous peigniez, par exemple, moi, si je vous dis je veux que vous me peigniez dans le studio d'Esprit Occitanie, c'est possible?
Si on me laisse libre, en fonction de... par exemple, on prend tout à l'heure le tableau de chez la présidente de la région ou celle de la clinique. On m'a dit, on détermine le format. Ils connaissent mon travail pour la couleur, mon style de travail. Et je dis, je fais le tableau, s'il vous plaît pas, j'en ai rien à foutre. Il partira ailleurs. Mais je ne travaille pas à commande. Il y en a plusieurs qui ont essayé en disant, j'aimerais que vous repreniez ça là et puis que vous me mettiez un petit truc là. Ah non, ça ne m'intéresse pas, je ne le fais pas.
Ça vous arrive de faire des emprunts à d'autres peintres, comme d'ailleurs on parlait de Picasso qui l'a beaucoup fait, de réécrire un peu ce qu'ils ont peint?
Non, je ne le fais pas, mais je suis marqué par certains peintres. Picasso est pour moi un dieu, comme Miles Davis, je les compare tous les deux. Pour moi, c'est mes modèles de créativité. Par contre, il y a des peintres... Je sais pas, qui ont fait pareil toute leur vie. Vous prenez Bernard Buffet. Bon, Bernard Buffet, ça va, quoi. Il a fait toute sa vie pareil. Mais il s'y trouvait bien. C'est certainement... OK, mais bon...
C'est important d'évoluer.
Bah, pour moi, oui. Moi, je suis instable.
C'est la vie, bah, c'est pas de l'instabilité. Ah, Est-ce que évoluer, c'est aller vers quelque chose de meilleur ou quelque chose de différent?
Moi, je pense qu'il faut que ce soit différent, mais meilleur peut-être pas que ce qu'on a fait avant, mais différent, autre chose. Il ne faut pas s'ennuyer dans son travail. Moi, je ne m'ennuie pas. Regardez ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai bougé sans arrêt. Moi, j'ai fait plein de trucs, de la pub, des relations publiques quand il y avait agri-communication, de la pub agricole, de l'audiovisuel, des films de pub. Bon, tout ça, moi, c'est la création qui m'intéresse. C'est avoir des idées.
On fait une deuxième pause musicale?
Je suis trop bavard.
Pas du tout, vous êtes là pour ça. Mais on va quand même écouter un peu de musique. On va écouter un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Augeret, qui nous a quittés en 2018, qui chante Aragon. Ça s'appelle Un jour, un jour. Je pense que vous aimerez.
Un ce que l'homme fut de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux. À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tu, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents tourne la violence, Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Âge désespéré de mes frères sauvages, je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous. Et le feu des soldats porté sur nos rivages, quoi toujours ce serait, par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Quoi toujours ce serait, la guerre, la querelle, des manières de roi et des fronts prosternés, et l'enfant de la femme inutilement né, les blés déchiquetés, toujours des sauterelles. Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue, le massacre toujours justifié d'idoles, aux cadavres jetés ce manteau de paroles, le bâillon sur la bouche et pour la main le clou. Un jour pourtant, un jour viendra, couleur d'orange. Un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront. Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Et bien voilà, Marc Augeret qui chantait Aragon, un jour, et comme je le disais à mon invité, cette radio ne passe pas que de la musique, elle en passe, mais on essaye aussi d'avoir des moments où on peut un peu réfléchir, découvrir des gens, ce que nous faisons avec Bernard Cadenne, le peintre Bernard Cadenne. Alors, est-ce que vous avez fait le faussaire des fois? Vous êtes un bon dessinateur, vous devez pouvoir... Vous avez fait des copies?
Oui.
Vous avez vendu?
J'étais au Beaux-Arts en dernière année. un antiquaire de Toulouse, je ne dirais pas le nom, qui était à l'époque un grand antiquaire, m'a commandé deux tableaux, deux copies. J'ai pris du pognon, j'ai fait des faux. La seule chose, c'est que je n'ai pas voulu le signer. Faire la fausse signature qu'il a fait faire ailleurs, etc. Et donc, j'ai fait des faux. C'était en 67 ou 68.
Bon, il y a prescription.
Oui, maître, oui. J'ai fait des faux. Fausse toile, parce qu'il fallait un châssis d'époque et tout. J'ai fait de faux. Et je ne sais pas où ils sont, je n'en ai rien à foutre d'ailleurs.
Alors, c'était des faux d'un grand peintre
Relativement connu, oui. Oui, mais je n'ai pas signé. J'ai refusé la signature. Là, je ne sais pas à l'époque si j'ai bien fait, pas bien fait. Je ne sais pas qui a imité la signature du peintre en question. Mais ces tableaux, je ne sais pas où ils sont, je n'en sais rien. L'antiquaire m'a payé, j'étais content. J'ai fait la fête le soir, comme à l'époque, ça se faisait bien, et voilà. Quoi.
Vous allez voir les tableaux des autres dans les galeries?
Oui.
Dans les...
Oui. Oui, mais alors, il y a quelque chose qui est... Puisque j'ai été musicien, je fréquente beaucoup ce milieu. J'ai créé avec un copain Jazz en Comminges, un festival de jazz, c'est moi qui l'ai créé. Il y a 17 ans, là, il va y avoir bientôt une session dans quelques semaines, puisque ça a été changé avec le Covid, évidemment. Et qu'est-ce que je... Ça y est, je suis en train de me paumer, monsieur.
Ah, ben je ne vais pas vous laisser patouiller.
Oui, vous allez me remettre sur ma...
Non, je vous demandais si vous visitiez d'autres galeries, si vous alliez voir des peintres.
Je vais voir les galeries. Mais alors, voilà ce que je disais. Les musiciens, on travaille ensemble. On se connaît tous. Les peintres, on ne se connaît pas. On connaît le travail. On voit beaucoup les à travers des expositions. Moi, je vais voir... des expos, des musées en France, à l'étranger, mais les peintres, on ne se connaît pas.
Comment vous qualifieriez l'évolution de votre peinture, puisque vous me disiez que vous bougez tout le temps, que ce que vous faites aujourd'hui, vous ne le faisiez pas dans 5 ans, et peut-être dans 5 ou 10 ans, vous ferez autre chose. Comment se traduit cette évolution?
Mais c'est parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin dans mon travail.
Alors c'est une évolution technique, c'est une évolution dans la composition
Technique. Je crois que je possède toute la technique. Avec les années, la technique, ce n'est pas une chose. Mais le reste, c'est dans la tête, la composition, le sens des choses. Et je suis un peu, on me l'a dit, inclassable. C'est un mélange de réalisme et d'abstrait. Donc, c'est difficile de classer. Vous avez parlé tout à l'heure de Saint-Cernin. Si vous regardez autour de Saint-Cernin, qui est transformé dans la couleur bleue, cette grande toile, tout ce qu'il y a autour, il y a la Garonne qui est au pied de Saint-Cernin, avec des taches de couleur, avec tout un tas de choses, et si vous isolez Saint-Cernin, c'est un tableau totalement abstrait. Voilà, donc j'ai du mal à parler de ma peinture, parce que ma peinture, c'est ce qui se passe dans ma tête avant... Et quand je suis sur la toile...
Donc on ne refait jamais deux fois le même tableau?
Ah non. Non, le même thème. Par exemple, Saint-Cernin, j'en ai fait 4 ou 5, 6 ou 7. Mais les tableaux sont totalement différents.
Alors parlons un peu des autres œuvres d'art. Et je demande toujours à mes invités une œuvre d'art qui les a marqués. Alors vous m'avez effectivement, et vous l'avez déjà dit au cours de cette émission, vous avez parlé de Miles Davis et de Picasso. C'est vraiment vos deux références?
Oui, non, il y a par exemple à Madrid, la salle du Greco. Le Greco, pour moi, vous voyez, j'ai la chair de poule.
Oui, je vous comprends.
C'est de modernisme, le Greco extraordinaire. Le Greco, c'est extraordinaire. On fait un plat de la Joconde.
Oui, qui est figé, qui est
la Joconde en déconnant, j'ai fait un dessin un jour, on dirait une femme de ménage. Je ne veux pas être méchant, et c'est très bien, je ne m'attaque pas à la profession, mais c'est une très belle toile, c'est merveilleux.
Alors c'est vrai que le Greco, par exemple, l'enterrement du comte d'Orgaz, quand on voit ça, c'est d'abord un très grand tableau, et puis... D'une richesse.
Une richesse, un trait, un dessin, un modernisme extraordinaire. Ça, pour moi, il y a... Voilà, j'ai tout dit.
Alors, parlons d'autre chose. Un moment particulier qui a marqué votre vie, vous avez un peu dit tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le jour où vous êtes rentré dans ce musée Albi et vous êtes dit, voilà. C'est ça que je veux faire?
Oui, c'est ça que je veux faire.
Si vous n'étiez pas allé dans ce musée, peut-être que
je
vous n'auriez jamais peint.
Et le docteur, qui s'appelait le docteur Devoisin, qui était président du, dont du musée Lautrec, qui me connaissait par mes parents. Je me promenais, j'étais seul dans le jardin, j'étais allé faire un tour. Il me dit, mais rentre au musée, viens, va te promener là. Je suis sorti de là, j'ai eu un choc. Et partant de là, j'ai dessiné, j'ai fait un concours. J'avais à ce moment-là 12 ou 13 ans. J'ai fait un concours de dessin qui était organisé sur le plan national par les vêtements Conchonquinette. C'était une marque de vêtements qui existait à cette époque-là. Il y en avait dans toutes les villes. Je fais ce concours de dessin. Ma mère l'envoie. Elle s'est occupée de l'expédition de mon travail et j'ai eu le premier prix national.
Ah, vous aviez quand même des bases, vous étiez un peu doué au départ, oui. Hein, parce que ça ne s'improvise pas.
Je dessinais, j'étais doué en dessin.
Mais le don sans le travail, c'est une sale manie, comme l'a dit quelqu'un.
Je pensais toujours à dessiner, mais pas en faire un métier. Ma mère, c'était pas son truc. Je prenais les cours de musique, tout ça, mais c'était... je rentrais dans la bourgeoisie à Albi, quoi. Alors, voilà, cette image.
Musique et peinture, on a compris que ça a été vos deux moteurs. Est-ce que vous avez peint des musiciens ou des instruments de musique? Oui.
Oui, j'en ai peint, mais je n'ai pas fait du portrait. Je n'ai pas fait le portrait.
Mike Davis, vous ne l'avez jamais peint, par exemple?
Non. Puisque dans ma peinture, il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de... Mais des musiciens, j'en ai fait pas mal, quoi. C'est beaucoup de tâches, de volumes. Il y a une partie dessin, il peut y avoir les doigts, tout le reste disparaît. Il peut y avoir un œil, un personnage, un sourire, un instrument. Mais ce n'est pas de la peinture. Je ne suis pas un portraitiste.
Une personne qui vous a particulièrement inspiré ou marqué?
Qui m'a marqué? J'ai pas mal de gens qui m'ont marqué. Je dirais que celle qui m'a le plus marqué, c'est ma marraine, médecin, j'en parlais tout à l'heure, qui grâce à elle, j'ai fait les beaux-arts et je suis dans ce métier et je vis de la peinture. Si ma marraine, que mes parents admiraient parce qu'elle était médecin haut placé, etc., si elle n'avait pas dit à mes parents, laissez-lui faire ce qu'il voudra parce que vous ne ferez rien autrement.
Ça veut dire quoi, que vous étiez déjà à l'époque, elle avait perçu l'être têtu que vous...
Oui, hein? Et un peu à côté de du côté normal, quoi, de la chose, de la vie, du travail, de l'école.
C'est ennuyeux, le normal.
Oui, on aurait voulu faire de moi un comptable. Mon père, il disait... Oui,
là, vous n'avez pas bien regardé. Hein.
Non.
Je parle de ce que
la preuve, c'est que ces choses-là...
Le casting n'était pas le bon. Alors, vous savez que dans mes émissions, on parle toujours de livres. Et pourquoi? Je demande toujours à mes invités, mais parlez-moi d'un livre. Et vous m'avez dit que vous étiez un grand amateur de BD, ce qui se comprendre. Est-ce que d'abord, première question, est-ce que vous en avez fait des BD?
Non, j'ai fait du dessin humoristique.
Mais pourquoi pas de BD? Vous auriez pu?
Non, mais oui, j'aurais pu. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire.
Vous pouvez encore faire.
Hein. Je n'ai pas le temps. Si vous saviez, j'ai une vie... extraordinaire. Je m'occupe de plein de choses. Je suis curieux de beaucoup de choses, mais j'ai pas le temps. Une BD, c'est beaucoup de temps. J'ai fréquenté de grands dessinateurs, dont il y en a un qui est mort il y a pas longtemps, qui s'appelait Jean-Claude Pertuiset. Ça vous dit peut-être rien, mais c'était un type, un Gersois extraordinaire, et qui passait du temps à faire des BD. Il faut beaucoup de temps et c'est gonflant. Mais par contre, je suis amoureux de Tintin. Ah non, là, je n'ai pas un t-shirt Tintin.
Non, il n'est pas un t-shirt Tintin.
Je les ai tous. Tintin, Lucky Luke, Astérix, et puis des vieux, j'ai de tout.
Alors, il y a les vieux, milliers. Mais la BD moderne, entre guillemets, est très, très vivace aujourd'hui, très créative.
Je suis un peu plus classique.
Oui.
Mais on peut dire qu'il n'y a pas plus moderne que Tintin.
Ah, ça, c'est sûr. C'est l'école belge, alors, qui vous a
plutôt... Oui, vraiment.
Alors, moi, je vais vous parler d'un livre. Ben, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure et je l'ai cité pendant cette émission. Ça s'appelle « Le monde selon Picasso ». C'est de Laurent Greilshammer, qui était au Monde avant et qui est le cofondateur de l'hebdomadaire Le 1. publié chez Talendier, et c'est sous-titré « Réflexion, fulgurance et traits d'esprit ». Alors, on a beaucoup écrit sur Picasso, mais là, l'avantage du livre, c'est qu'on donne la parole à Picasso. C'est la voix de Picasso qu'on entend, qui va parler de politique, des femmes, du monde de l'argent, de la vie, du monde de l'art, bien évidemment, de sa conception de l'art, de ses tableaux. C'est assez décapant quand même, parce que le garçon était...
Il était décapant.
Oui, pour le moins. C'était aussi un intellectuel. C'était un homme hors du commun qui aimait bien discuter, se confronter, qui affirmait ses convictions, qui était assez redoutable dans la formule, parce qu'il avait des formules très assassines. Il expédiait, notamment ses confrères, beaucoup de traits d'humour. Et donc, je vous conseille vivement ce livre, je vous le répète, « Le monde selon Picasso ». Puis si vous avez l'occasion d'aller à Barcelone, le musée Picasso, il y est depuis certes longtemps, mais là, il a été entièrement remodernisé. J'y étais il y a quelque temps, je vais y revenir d'ailleurs dans quelques jours. C'est absolument magnifique, c'est un très très bon moment.
Oui.
Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce musée. Voilà Bernard Cadenne, eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous vois pensif.
Non, pas du tout.
Peut-être quelque chose à rajouter, parce qu'on aurait pu parler.
J'ai passé un très bon moment avec vous.
Et puis écoutez, c'était partagé.
Esprit Occitanie. Fait de bonnes émissions intéressantes et là j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec vous pour la bonne raison que c'est pas pris comme une radio traditionnelle. On discute, on parle de choses et
on
voilà.
Était on là pour vous entendre.
Un format, où je fais pour cette émission notre radio et qui sont. Questions-réponses, etc.
Voilà,
c'est très libre, c'est très bien.
Eh bien, on était là pour vous entendre, vous apprendre à vous connaître pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Et puis, je vous rappelle, Galerie Alain Daudet. Alors, l'adresse de la Galerie Alain Daudet, c'est rue de la Trinité à Toulouse, donc il n'y a pas plus central. Ça va démarrer le 14 octobre, ce sera le jour du vernissage à partir de 18h30. Si vous voulez voir Bernard Cadenne, ce sera le moment.
J'y serai tous les samedis après-midi.
Bon, et ça durera jusqu'au 7 novembre. Merci encore une fois Bernard Cadenne. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne. Avec à la technique Tiffaine Lemen, que je remercie. Bien évidemment, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission et tous les autres podcasts, bien évidemment, sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir Bernard Cadenne.
Au revoir. Why does this rain pour down? I'm gonna drown.